Europe Midi. Thierry Dagiral.
Bonjour à tous, bienvenue, il est midi et demi.
L'eau est montée quasiment jusqu'au deuxième étage. On était complètement bloqués, on voulait partir, mais on ne pouvait pas. On espérait juste que l'eau baisse et on a vraiment vu la mort en face.
Le bilan ne cesse de s'alourdir en Allemagne après les violentes intempéries ces dernières heures. 103 morts depuis quelques minutes. Ce matin, immense glissement de terrain près de Cologne. Nous serons en Rhénanie où 1300 personnes sont toujours portées disparues. La Belgique également sous le choc, au moins 15 morts. Nous retrouverons notre envoyé spécial à Verviers, en région Wallonne. Éric Dupond-Moretti sera-t-il mis en examen? Le garde des Sceaux est depuis ce matin devant la Cour de justice de la République. Une première en France, explication à suivre dans ce journal. Et puis quand le symbole de la France reprend vie. Cela faisait 9 mois qu'elle n'avait pas vu un touriste. La Tour Eiffel rouvre ses portes dans 15 minutes et nous serons à ses pieds. L'invité d'Europe Midi, 19e étape du Tour de France avant l'arrivée dimanche. L'occasion de faire un premier bilan avec le journaliste Éric Richard. Il publie « Y a-t-il encore un Français pour gagner le Tour ?» aux éditions Mareuil.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Le quotidien le plus lu d'Allemagne, le quotidien Bild, titrait ce matin « Les inondations de la mort des habitants surpris par les crues subies dans l'ouest de l'Allemagne ». Ce matin, un important glissement de terrain a touché une commune proche de Cologne. Le nombre de victimes en Allemagne s'élève désormais à 103 morts, on vient de l'apprendre. La Rhénanie-Palatinat est l'une des régions les plus touchées, rien que dans le canton d'Erweiler. 50 personnes ont trouvé la mort et 1300 personnes sont portées disparues. Mélina Fachin, vous êtes sur place, c'est de cette région dont est originaire la jeune fille que vous avez rencontrée ce matin. Elle a passé la nuit dans un gymnase.
Oui, Regona, 22 ans, a vécu l'enfer il y a deux jours. Ce midi, elle est très tirée. Elle erre dans le gymnase de cette école avec sa mère. Un café à la main, un croissant. Elle essaye de reprendre quelques forces.
L'eau est montée quasiment jusqu'au deuxième étage. On était complètement bloqués. On voulait partir, mais on ne pouvait pas. On espérait juste que l'eau baisse et on a vraiment vu la mort en face. On s'est dit d'accord, aujourd'hui on va mourir. On sentait la maison bouger, on voyait d'autres maisons se faire emporter. On a vraiment de la chance d'être en vie.
170 personnes ont passé la nuit ici, à quelques kilomètres de chez eux, ou plutôt de ce qu'il en reste. Et cette situation va sans doute durer plusieurs jours. Thomas Sefer, secouriste à la Croix-Rouge allemande.
Combien de temps ils vont rester ici? Ça dépendra des solutions qu'on va trouver pour les jours à venir. On est en train de chercher tout ce qui est possible de faire en matière d'hébergement, soit dans les hôtels ou dans la famille. C'est très difficile parce qu'on parle là de personnes qui ont tout perdu.
Vous le disiez, il reste encore plus d'un millier de personnes dans cette zone sinistrée qui manquent à l'appel. Les secours espèrent que la plupart sont des villageois encore coupés du monde, sans moyens de communication et donc sans possibilité de donner signe de vie.
Mélina Fachin en Allemagne pour Europe 1. La Belgique est également très touchée avec au moins 15 morts. La ville de Liège a été évacuée. À Verviers, en région wallonne, un couvre-feu a été imposé depuis hier soir entre 21h et 6h du matin afin d'éviter les pillages des magasins. Verviers, où vous vous trouvez, Jean-Jacques Héry? La ville est devenue un immense chantier. Hein.
Oui, effectivement, au lendemain de la catastrophe, il faut déblayer les gravats, tronçonner les arbres, retirer les panneaux de signalisation, tomber à terre aussi. Il faut dégager des voitures qui gisent parfois sur le toit, pare-brise brisé. Dans les habitations, les eaux de la Vesdre ont dévasté les rez-de-chaussée, ne laissant que de la boue et du désespoir.
Le problème, elle est montée de 2 mètres sur une heure et demie de temps. Donc là, tout le rez-de-chaussée a été noyé alors à ce moment-là. Et on pouvait juste regarder l'eau monter, quoi, qui s'est arrêtée à 2 marches de l'étage. La Vesdre, pour moi, elle est montée au moins de 6 mètres par rapport à son lit. Il y a 40 ans, moi, que j'habite dans la maison, on a eu 5, 6 cm, 10 cm, on va dire, dans notre garage, peut-être 2 fois sur 40 ans. C'est tout ce qu'on a pu avoir.
Maxime Degey, l'échevin des travaux de Verviers, ne reconnaît plus sa ville. C'est comme une scène de guerre, dit-il. Les travaux seront colossaux.
C'est des centaines, voire des milliers de maisons impactées. C'est des routes, c'est des trottoirs, c'est des espaces verts. C'est tout qui est parti. Puis effectivement, un bâtiment qui risque de s'effondrer, une vérification des ponts. Et puis, ce sera le travail de nettoyage qui va commencer.
Mais la résilience est là, elle aussi, déjà au milieu du bruit des pelleteuses. Partout, les voisins s'entraident, partout, ils se réconfortent. On ne pourra s'en sortir que comme ça, disent-ils, sans que l'on sache s'ils en sont vraiment convaincus.
Jean-Jacques Héry, envoyé spécial en Belgique. Voilà ce que l'on pouvait dire ce midi. Les intempéries en Europe qui, pour l'heure, ont donc fait près de 120 morts. 12h35 sur Europe 1 depuis 9h ce matin. Éric Dupond-Moretti est donc devant la Cour de justice de la République. Il y est interrogé par les magistrats chargés d'enquêter sur de possibles conflits d'intérêts avec ses anciennes activités d'avocat. C'est une première pour un garde des Sceaux en exercice. Marion Dubreuil, vous êtes sur place. Le ministre qui s'est dit serein ce matin en arrivant. Hein.
Oui, Éric Dupond-Moretti, en costume, cravate noire et chemise blanche, est arrivé seul en voiture un peu après ses trois avocats ce matin. Et face aux caméras, il a dit tout sourire quelques mots sur son état d'esprit.
Serein, mais particulièrement déterminé. Le ministre de la Justice, il n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas non plus en dessous. Je vous souhaite une excellente journée.
Son interrogatoire pourrait durer jusqu'à ce soir, d'autant que le garde des Sceaux l'a fait savoir. Il entend bien répondre aux questions des trois magistrats instructeurs de la Cour de justice de la République. Il soupçonne Éric Dupond-Moretti d'avoir abusé de sa position de ministre pour régler ses comptes d'avocat avec des magistrats. La commission d'instruction s'intéresse tout particulièrement à deux enquêtes administratives ordonnées par le garde des Sceaux. La première vise des magistrats du parquet national financier qui avaient épluché ses relevés téléphoniques. La deuxième, un juge détaché à Monaco qui avait mis en cause l'un de ses clients. Éric Dupond-Moretti explique n'avoir fait que suivre les recommandations de son administration. Il pourrait néanmoins être mis en examen dès aujourd'hui pour prise illégale d'intérêt, un délit passible de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Explication signée Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Emmanuel Macron sera à 15h à Lourdes dans les Hautes-Pyrénées. Cet après-midi, le chef de l'État rencontrera les acteurs du tourisme. Lourdes est la ville la plus sinistrée de France depuis le début de la crise sanitaire. Le sanctuaire a perdu 80% de sa fréquentation en 2020. Et puis l'annonce a été faite ce matin. Le port du masque sera obligatoire dans l'espace public, sauf à la plage et dans les grands espaces naturels, dans toutes les communes des Pyrénées-Orientales à partir de demain et jusqu'au 2 août. Annonce de la préfecture en raison bien sûr de la très forte hausse des cas de Covid. Ce soir, à minuit, ce sera la fin de la phase principale de Parcoursup, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Le gouvernement se félicite d'un fonctionnement plus rapide cette année. Mais tout de même, Virginie Riva, plus de 91 000 candidats n'ont à cette heure-ci aucune proposition pour la rentrée prochaine.
Oui, c'est un peu moins que l'an dernier, mais il y avait aussi moins de candidats. En clair, ça signifie que 9 élèves sur 10 ont déjà eu une proposition, mais 45 000 lycéens n'en ont toujours pas. Alors, pas d'inquiétude pour eux, hein. Une nouvelle phase va commencer sur la plateforme à partir de ce soir minuit, la phase complémentaire, comme l'explique Jérôme Teillard, monsieur Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur.
Elle est disponible sur Parcoursup, elle va fonctionner tout l'été jusqu'à la mi-septembre. Ils peuvent formuler jusqu'à 10 vœux sur des formations qui ont des places vacantes. Ce sont plus de 5000 formations, si bien des BTS, des classes préparatoires, des écoles de commerce, y compris, et puis des licences. Donc elle est mise à jour très régulièrement. Donc le conseil, c'est évidemment de pouvoir consulter pour regarder les formations disponibles.
Durant cette phase, ces élèves auront aussi un accompagnement personnalisé avec des experts à leur écoute, même en plein mois d'août, via la plateforme. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, il est encore possible de faire une demande pour un apprentissage jusqu'en octobre.
Virginie Riva en charge des questions d'éducation pour Europe 1. 12h38, c'est sa plus longue fermeture depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 9 mois que la Tour Eiffel était fermée. Et c'est le grand jour ce vendredi parce que les premiers visiteurs vont de nouveau pouvoir grimper sur la Dame de Fer dans une poignée de secondes. Caroline Baudry, le public est au rendez-vous. Hein.
Oui, plusieurs centaines de personnes patientent ici près des immenses pieds métalliques de la Dame de Fer pour accéder dans quelques minutes aux ascenseurs. La jauge y est réduite de moitié. Ils ne seront que 13 000 visiteurs par jour. Véronica et Manon, elles sont arrivées à 10 h ce matin pour être sûres d'en faire partie.
On se sent exceptionnel. Hein.
Oui. Non, c'est depuis le temps que je voulais vraiment le faire. Pour moi, c'était primordial de le faire. La Dame de Fer, franchement, en haut, t'as la vue de tout Paris. C'est exceptionnel, quoi.
Une ascension de 324 mètres que 70 000 visiteurs ont déjà réservé en ligne pour l'été. Une moitié de Français, une moitié d'étrangers, comme Patrick, venu en famille depuis la Croatie. Il sera l'un des tout premiers à entrer dans la structure.
Je voulais la montrer à mes enfants, parce que c'est l'un des monuments les plus importants de France.
Plutôt du monde. On se sent vraiment chanceux. Si elle a été vraiment fermée pendant 9 mois, on est vraiment tombé sur la bonne date. Elle est encore plus grande que je l'imaginais. C'est trop beau.
Pas de passe sanitaire à présenter aujourd'hui. Il sera obligatoire dès mercredi pour accéder au monument, conformément à ce qu'a annoncé Emmanuel Macron pour les lieux de culture rassemblant plus de 50 personnes.
Caroline Baudry au pied de la Tour Eiffel pour Europe 1. Le sport à présent avec le Tour de France, 19e étape aujourd'hui. Les coureurs sont partis depuis 25 minutes maintenant de Mourinx, 207 km vers Libourne. Arrivée prévue à 17h15. Il reste 3 étapes d'ici les Champs-Élysées dimanche. Le bilan tricolore est d'une seule victoire, hein, celle de Julien Alaphilippe à Landerneau. Un bilan moyen qui pourrait en rester là, hélas, Axel May.
Oui, sur les 3 étapes qui restent, 2 semblent promises aux sprinteurs, celle d'aujourd'hui à Libourne et surtout celle de dimanche sur les Champs-Élysées. Or, les 2 meilleures chances françaises pour les sprints, Arnaud Démare et Nasser Bouhanni, ont dû abandonner. Quant au contre-la-montre de demain, il n'y a clairement pas de cycliste tricolore capable de rivaliser avec les spécialistes du chronomètre. Julien Alaphilippe devrait donc rester le seul lauréat français de cette grande boucle. Écoutez ce qu'en pense Christophe Riblon, ancien double vainqueur d'étape.
Il ne faut pas oublier que Romain Bardet n'est pas là, Thibaut Pinot n'est pas là. Et pour les victoires d'étape, on sait aussi que c'est aléatoire. Le bilan, je ne dirais pas qu'il est très positif, mais voilà, il ne faut pas non plus voir que du noir dans ce Tour de France pour les Français.
Alors certes, Guillaume Martin est installé dans le top 10 du classement général, mais le grimpeur l'avait dit, il était venu ici avant tout pour gagner une étape et n'y sera donc pas parvenu. Julien Alaphilippe évoluant dans une équipe belge et à moins d'une belle surprise, cela sera la première fois depuis plus de 20 ans qu'aucun coureur français d'une formation française ne gagne une étape sur le Tour.
Axel May sur la route du Tour et on va dresser un premier bilan de ce Tour 2021 avec mon invité dans un instant, le journaliste Éric Richard. Football avec le Mercato et Olivier Giroud qui doit signer son contrat avec l'AC Milan aujourd'hui. L'attaquant de Chelsea et champion du monde est en tout cas arrivé ce matin au centre d'entraînement du club italien pour passer sa visite médicale. Les JO de Tokyo, on est à une semaine jour pour jour de la cérémonie d'ouverture, mais la capitale japonaise n'a toujours pas le cœur à fêter ce compte à rebours alors que les cas de Covid-19 continuent de grimper. Hier, 1308 nouveaux cas ont été recensés à Tokyo. Bonjour Julien Froment.
Bonjour.
Le CIO et les organisateurs devront livrer des jeux sûrs et c'est un vrai pari sanitaire en une semaine.
Ouais, effectivement, un pari pour le moment difficile à tenir puisque plusieurs cas ont été dénombrés ces derniers jours. Un membre du staff de l'équipe russe de rugby à 7, par exemple, testé positif au Covid, a même dû être hospitalisé. Il y a aussi ce cluster dans un des hôtels de la délégation brésilienne de judo. 8 membres de l'établissement ont été testés positifs. Alors le gouvernement japonais fait tout pour éviter la propagation du virus, quitte à réduire au maximum les libertés individuelles des sportifs. Laurent Tilly est l'entraîneur de l'équipe de France de volleyball. Les Bleus sont actuellement en stage à Okinawa, au sud du pays, et ils sont calfeutrés dans leur hôtel.
On est complètement surveillé, on est testé tous les jours, tous les matins. On n'a pas le droit de sortir de l'hôtel, on est verrouillé au 4e étage. On doit aller de l'hôtel au gymnase, du gymnase à l'hôtel. On n'a pas le droit de descendre dans le lobby de l'hôtel, par exemple. On est surveillé par tout le monde. Il n'y a pas besoin de GPS, on est surveillé par tout le monde et on est suspect pour tout le monde.
Une bulle sanitaire ultra restrictive, difficile à vivre pour les sportives et les sportifs. La joueuse de l'équipe australienne de basket, Liz Cambage, a pris d'ailleurs une décision radicale. Elle a déclaré forfait pour les Jeux. Pas de famille, pas d'amis, pas de fans, aucun système de soutien en dehors de mon équipe. C'est honnêtement terrifiant pour moi, a-t-elle expliqué. La solitude, l'isolement, voilà l'autre danger qui rôdera aussi autour de ces Jeux Olympiques si particuliers pour les athlètes.
Merci Julien. Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Il nous reste à voir le temps. Bonjour Marlène Duré.
Bonjour Thierry.
Alors on parlait en début de journal des drames bien sûr en Allemagne, en Belgique. L'Est de la France a également été touché. 11 départements restent en alerte. Hein.
Oui, pour les crues. Il a beaucoup plu. On surveille la montée des cours d'eau. Alors ça va concerner principalement les départements proches des frontières du Nord et du Nord-Est. Et puis on a quand même rajouté la Saône-et-Loire et l'Ain en cours de matinée. Alors la tendance est à l'assèchement. C'est une bonne nouvelle. Encore quelques averses près des frontières de l'Est cet après-midi, y compris en Corse, sur une bonne partie est d'ailleurs. Quelques gouttes, oui, sous un ciel bien chargé du côté de la Champagne-Ardenne, Bourgogne, centre, massif central, une partie de la vallée du Rhône. Partout ailleurs, c'est du beau temps. Et oui, on l'a annoncé enfin, du plein soleil pour les régions bordant la Manche et la Bretagne. L'Île-de-France sous de belles éclaircies, à l'exception peut-être de la Seine-et-Marne, hein, qui se rapproche de la zone nuageuse. Et puis je vais terminer par la Méditerranée. C'est du ciel bleu, sauf vers la Côte d'Azur. On a des averses orageuses dans les Alpes du Sud. Elles vont déborder sur les plages. il faut le dire. Un petit peu aussi sur les Alpes de Haute-Provence. Mistral et Tramontane soufflent toujours. Et puis on a aussi du vent d'ouest au niveau des bouches de Bonifacio au sud de la Corse. Les températures, bah plutôt contrastées entre les régions qui bénéficient du soleil et puis les autres sous la grisaille. Alors on attend comme ça, je vous donne quelques fourchettes. 24-26 degrés dans le nord-ouest, 26 à Nantes par exemple. Un petit peu moins près de la Manche, on est plus sur du 18-20 degrés, 20 à Cherbourg, jusqu'à 24-27 dans le sud-ouest, 27 à Bordeaux, Toulouse, Montauban, Cognac. Il fera 25-31 dans le sud-est, 26 pour Nice par exemple, 31 à Montpellier, c'est la maximale. Et puis sous le ciel gris du nord-est et centre-est, allez, 20-24 degrés, 24 à Strasbourg et dans la capitale, comme prévu, 25 degrés cet après-midi.
On vous retrouve dans le journal de 13h. Merci Marlène.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
Restez avec nous dans un instant, mon invité Éric Richard, il est journaliste, il a couvert plus de 15 Tours de France. On va faire un premier bilan de ce Tour 2021 qui arrivera dimanche, vous le savez, hein, bien sûr, sur les Champs-Élysées. Il publie « Y a-t-il encore un Français pour gagner le Tour ?» aux éditions Mareille. A tout de suite.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Thierry Dagiral.
12h47, Éric Richard, journaliste à La Nouvelle République et auteur de « Y a-t-il encore un Français pour gagner le Tour de France ?» aux éditions Mareuil et mon invité. Bonjour.
Bonjour Thierry, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Midi. Depuis 1985, date de la dernière victoire de Bernard Hinault, aucun Français n'a remporté le Tour de France. 36 ans, comment on peut expliquer cela ?
Alors il y a évidemment beaucoup de facteurs, beaucoup de raisons, et votre envoyé spécial l'a rappelé il y a quelques minutes, ouais, c'est à cette année que les choses vont changer. Plusieurs facteurs, hein. On parle notamment, eh bien, sans doute, hein, d'une époque et d'une génération qui ne nous a pas permis de retrouver un coureur du niveau de Bernard Hinault, ni même du regretté Laurent Fignon. Mais il n'y a pas non plus d'exception française, hein. Il faut un petit peu décrisper les choses. J'entends bien que l'on attend évidemment beaucoup, mais si on se réfère à la Belgique, hein, qui est une autre nation phare et référence du cyclisme sur route, eh bien depuis Eddy Merckx, ils n'ont remporté qu'une seule victoire dans le Tour et n'ont pas retrouvé non plus de coureurs à cette hauteur-là.
Mais pour toi, Éric Richard, il y a des espoirs. On pense bien sûr à Julien Alaphilippe, hein, qui est champion du monde. Pourquoi il ne se met pas en position de gagner le Tour ?
Alors, Julien Alaphilippe, si l'on résume, coche des cases pour gagner un grand tour, mais pas toutes. C'est-à-dire que...
Il lui manque quoi alors ?
Alors, il lui manque sans doute la constance qui est requise sur une épreuve de 3 semaines. Il est capable, effectivement, de réaliser de très belles ascensions. Il est capable d'être très fort sur le contre-la-montre. Ouais. Mais le Tour de France exige un sans-faute. Et c'est vraiment, d'ailleurs, ce que nous montre Tadej Pogacar, qui, bien d'ailleurs, sûr, entre parenthèses, alors lui, je crois vraiment beaucoup qu'on a là affaire à un nouveau très grand champion. Il est peut-être, lui, justement, du niveau des Merckx et des Hinault, on le verra par la suite.
Mais avant de parler justement de Pogacar, je voudrais qu'on revienne encore sur les Français, parce qu'on sent quand même que ça frétille. On pense bien sûr à David Godu, 24 ans, qui a fait un très beau tour cette année. Guillaume Martin, voilà, il y a des jeunes qui sont là. On sent peut-être une relève, non ?
Alors, il y a effectivement une génération de qualité. Donc, on rappelle que Julien Alaphilippe vient d'avoir 29 ans. David Godu, vous l'avez cité. On peut parler de Valentin Madouas, même s'il n'est pas cette année dans une spirale très, très positive. Ce sont des coureurs qui ont 25 ans. Ouais. Donc oui, effectivement, il y a une relève avec des coureurs de qualité qui ont un certain nombre, je dirais, de prérequis restent après, encore une fois, à se mettre en évidence sur une épreuve où il faut réaliser un coup de maître sur un contre-la-montre, éventuellement dans la haute montagne, et surtout ne pas flancher après. C'est ça l'immense difficulté, et c'est ça qui est vraiment réservé aux tout meilleurs.
Alors, on en parlait bien sûr de Pogacar, 22 ans, hein, 3 étapes remportées, 2 d'affilée en montagne. Il sera sans doute maillot jaune dimanche, maillot à poids peut-être de meilleur grimpeur. C'est un grand champion qui va dominer pendant quelques années les courses, à votre avis ?
Ouais, moi je le crois. Je crois effectivement qu'on tient là un coureur d'exception. Sa victoire l'année passée, un petit peu au finish contre Roglic, son compatriote, méritait confirmation. Bah, je crois que cette année, la confirmation, elle est là, elle est venue. Pogacar gagne avec... il me rappelle, moi, beaucoup, dans sa maîtrise, il me rappelle beaucoup Miguel Indurain, même s'ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques physiques. Indurain était extrêmement grand, lourd, puissant. Pogacar, c'est 1m76, 66 kilos. Oui. Il a justement un compromis entre l'explosivité, la légèreté de poids de corps. Il a effectivement ces qualités-là, mais surtout, il court un petit peu comme un vieux briscard. Or, il aura 23 ans en septembre. Il est le seul coureur de l'histoire, d'ailleurs, à cet âge-là, à avoir déjà remporté 2 tours. Ouais. C'est vraiment très impressionnant.
Ce Tour de France 2021, justement, on avait beaucoup de chutes, on s'en souvient bien sûr au début, des étapes très denses. On entend les commentateurs dire qu'il a été très difficile. C'est votre avis, à vous également, Éric Richard ?
Alors, le Tour, par définition, hein, vous le savez, c'est un grand spectacle sportif international, mais à ciel ouvert. Fatalement, on prend beaucoup de risques. Alors, on se souvient, on n'y revient pas, de cette affaire de la pancarte imprudemment, comme ça, présentée au passage du peloton. Est-ce qu'il y a eu plus d'accidents cette année ? Oui, il y a eu effectivement une période, notamment en ce début de Tour, où les choses ont été extrêmement compliquées. Bon, après, on sera jamais, si vous voulez, malheureusement, sur un risque zéro sur une épreuve comme celle-là. Moi, il m'a été donné de côtoyer Jean-Marie Leblanc, qui était le prédécesseur de Christian Prudhomme sur le Tour de France. Il avait cette formule, il disait, vous savez, le Tour, c'est un miracle permanent. Et c'est vrai, quand on voit ces étapes de montagne où le public est là, collé presque contre les coureurs, c'est presque miracle, en effet, et Dieu merci qu'on n'ait pas plus d'accidents.
Mais on se souvient des propos de Marc Madiot, le directeur de l'équipe Groupama FDJ, qui a poussé un coup de gueule en disant, si on ne fait rien, on va avoir des morts. Les coureurs, on s'en souvient également, ont posé le pied à terre, ont roulé au ralenti au départ de la quatrième étape. On sent quand même que ça a été un peu le Tour de France de la colère.
Oui, c'est vrai. Et je pense d'ailleurs qu'à la fois Marc Madiot et à la fois les coureurs ont eu raison d'insister effectivement sur ces conditions de sécurité, parce qu'on doit à ces sportifs professionnels, on leur doit des conditions de sécurité normales dans la pratique de leur sport. Je crois que les organisateurs eux-mêmes ont fait beaucoup d'efforts, ont vraiment pris le problème en compte. Je pense qu'il faut se faire à l'idée. Et puis, vous savez, il n'y a pas que sur le Tour de France, malheureusement, des accidents. On en a vu des spectaculaires dans d'autres pays. Je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne. Il faut effectivement tout faire pour la sécurité des coureurs. Je crois que les organisateurs l'ont bien compris.
Il faudra en tirer des leçons pour la saison prochaine.
Ouais, je le pense. Déjà, vous voyez, sur le plan de la sécurité, je crois vraiment qu'au niveau du public, ce qui s'est passé a servi d'exemple, en quelque sorte, de ce qu'il fallait pas faire. Je pense que ça a beaucoup, d'ailleurs, marqué les esprits cette année. Dans les villes-états, beaucoup de gens ont compris que le Tour de France était un beau spectacle qu'il fallait respecter et surtout ne pas commettre d'imprudence. Et je pense et j'espère que dans les années à venir, on aura effectivement des progrès sur ce plan.
Éric Richard, on parlait des performances tout à l'heure de Pogacar, des performances qui éveillent les soupçons sur le dopage. Il répond que non, que ce temps-là est terminé. Vous êtes d'accord avec lui, c'est un temps totalement révolu ou pas ?
Alors écoutez, moi j'ai envie de croire dans les performances de Pogacar. Elles me font, pour tout vous dire, moins peur que celles de sinistre mémoire, si j'ose dire, de Lance Armstrong. Ouais. Vous savez, en 99, c'était l'année qui suivait l'affaire Festina, et c'est ce dramatique scandale qui avait mis et qui avait éclaboussé un certain nombre d'acteurs français du cyclisme, on n'y revient pas. L'année suivante, c'était 99. Vous vous en souvenez, on avait parlé du Tour du Renouveau. Or, l'ironie du sort, c'est que le Tour du Renouveau en question coïncide avec la première victoire de Lance Armstrong. Alors évidemment que on verra ce que nous dira l'avenir. En tous les cas, moi, j'ai envie de croire à ses performances. Elles me paraissent crédibles. Si l'on y regarde bien, quand on voit, notamment dans les Pyrénées, où il a été... magnifique, où il a été extrêmement fort. Il s'est pas lancé non plus dans des chevauchées impossibles, parce que toute la difficulté, c'est de doser l'effort dans ces moments-là. Et Pogacar a ce talent, c'est qu'il sait millimétrer son effort. Il porte ses attaques en fin d'étape. Il fait ça avec une rigueur absolue. Là, comme ça, a priori, oui. Moi, j'ai envie de vous répondre que j'y crois.
Mais ça vient encore un peu abîmer l'image du Tour. Quand on voit les images d'hier, par exemple, des gendarmes qui ont investi l'hôtel de l'équipe Bahreïn, par exemple. Là encore, ça vient abîmer un peu cette image.
Alors, ça dépend, je dirais, de sur quel plan on se place. Abîmé, oui, sans doute, parce que c'est toujours un peu triste ces investigations qui nous disent bien qu'il faut pas relâcher l'effort et la vigilance. En même temps, quelque part, ça rassure aussi en se disant de toute façon, ceux qui auraient des envies ou des velléités de tricher seront pourchassés. Moi, à ce stade, en tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé. Je voudrais pas dire du tout la même chose au cœur des années 2000 où il y avait une véritable chape de plomb sur le Tour. Ouais, moi, je veux croire en effet qu'on est rentré, si je puis m'exprimer ainsi, dans un monde meilleur, au moins sur le plan du cyclisme.
Un dernier mot rapidement, Éric Richard. Il y a eu ce grand retour quand même, celui de Cavendish, hein, 36 ans, qui a égalé le nombre de victoires d'étape de Merckx, 34. Aujourd'hui, c'est une étape pour lui. Il pourrait même le dépasser.
Oui, alors effectivement, c'est sans doute une étape sur laquelle il aura son mot à dire. Il a été magnifique hein, sur ce Tour, ce qu'il fait à 36 ans, alors qu'on l'attendait un petit peu comme une parade de fin de carrière, il est là. Après, si je puis dire, le rapprochement avec Merckx ne vaut que pour le nombre de victoires d'étape.
c'est ce que dit Merckx.
oui. Hein, vous avez vu, lui, il a passé 2800 km en tête. Et Cavendish 6, oui, c'était...
Eddie Merckx qui sera d'ailleurs sur cette 19e
étape. Performance.
Ouais, Eddie Merckx qui sera sur cette 19e étape qui est parti maintenant depuis quelques minutes à 12h20 direction Libourne. Éric Richard, auteur de Y a-t-il encore un Français pour gagner le Tour de France, c'est aux éditions Mareuil. Grand merci à vous Éric, merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
Dans un instant, le journal de 13h et la France bouge. Bel après-midi à tous, on se retrouve bien sûr ce soir à 18h. Bel après-midi.